Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Le roi fou, le roi perché, le Märchenkönig, autrement dit le roi des légendes. On ne compte plus les surnoms et les rumeurs attribuées à Louis II qui a été roi de Bavière durant 22 années seulement, de 1864 à 1886. Louis II traverse deux guerres, bon, il n'a ni femme ni enfant, et se démarque surtout par sa personnalité atypique. Certains affirment qu'il souffrait de folie, une version plus prononcée du gène de l'originalité propre à la dynastie des Wittelsbach. D'autres, à l'inverse, voient en lui un monarque visionnaire, pacifiste et, il est vrai, un brin original. Plongeons ensemble dans l'histoire d'un roi qui, 140 ans après sa mort, continue de fasciner et attirer chaque année toujours plus de touristes dans ses célèbres châteaux de Bavière. C'est dire qu'il n'était pas si fou dans ses dépenses extravagantes. Voilà. Pour tenter de comprendre le fantasque Louis II de Bavière, il faut d'abord évoquer son adoration pour le compositeur Richard Wagner. C'est à 16 ans, alors qu'il assiste pour la première fois à une représentation du célèbre opéra Lohengrin à Munich, que le prince héritier reçoit le plus grand choc émotionnel de sa vie. Avec cette création, Wagner plonge l'adolescent, sensible et mélancolique, dans un état de transe inquiétante. Les yeux rivés sur la scène, transpirant, tendu vers le chanteur, son précepteur craint même que ce soir-là, il ne soit pris d'une crise d'épilepsie. Sacré roi en mars 1864, à 18 ans à peine, Louis II s'intéresse peu au pouvoir. Il porte la guerre en horreur, déteste les réunions politiques. En revanche, désormais souverain de 5 millions de Bavarois, il n'a qu'une idée en tête, rencontrer Richard Wagner. Ces choses faites quelques semaines plus tard, leur rencontre dure une heure et demie. Louis II tombe encore plus en adoration devant cet homme de 30 ans, son aîné. Il demande à ce qu'un buste de Wagner soit fabriqué et posé dans son bureau à côté de ceux de Shakespeare et de Beethoven. Wagner écrit alors « Il m'aime et je l'aime. Nos rapports ne sont pas autre chose qu'un commerce d'amour. Il est insatiable d'apprendre à aimer. » Mais ne vous y méprenez pas, hein.
Ah oui,
il
ne
s'agit pas d'une relation homosexuelle. Wagner use de flagornerie, nourrit l'ambiguïté auprès du roi dans l'unique but de lui soustraire de l'argent, toujours plus d'argent. Et Louis de Béa s'exécute et paye. Il déroule un pont d'or au compositeur. Le souverain lui donne une rente équivalente au salaire d'un ministre, 4000 florins. Il lui offre la nationalité bavaroise, éponge la totalité de ses dettes et l'installe dans une splendide maison d'un quartier huppé de Munich. Soie, satin, robe de chambre par dizaines, flacons de parfums onéreux, rien n'est trop beau pour son ami Wagner. Avec son charisme retors, Wagner parvient à convaincre Louis de lui offrir toujours plus de florins, jusqu'à 30 000 pour financer...
C'est tellement énorme que vous étouffez,
c'est énorme. Pour financer son célèbre opéra, sa fameuse tétralogie. Quelques années plus tard, le roi n'hésite pas à vider les caisses de l'État pour financer l'opéra, enfin la maison opéra, hein, que Wagner exige dans la ville de Bayreuth. Le Festspielhaus.
Mais malgré tout ça, il est toujours pas fou, d'après vous, Stéphane. Hein, c'est important de rappeler votre théorie.
Quand vous voyez le nombre de gens qui, chaque été, se rendent à Bayreuth et au Festspielhaus, vous dites que c'est plutôt rentable pour l'État de Bavière.
Rétrospectivement, oui.
Bon, ses ministres, évidemment, s'en offusquent. Louis II ne veut rien savoir. Il veut fuir la réalité. Il veut fuir ses responsabilités royales. C'est l'obsession de Louis II durant toute sa vie. Et pour y parvenir... Il mise sur des projets pharaoniques de construction de châteaux. Oui, on a tous en tête la forteresse mondialement connue de Neuschwanstein, perchée sur un piton rocheux et dont Walt Disney s'est inspiré pour le château de la Belle au bois dormant. Mais le roi insatiable ne peut se satisfaire d'un seul projet. En 1870, alors que la guerre entre la France et la Prusse éclate, il s'en désintéresse, bon il était du côté de la France, hein, et fait ériger le château de Linderhof à la frontière autrichienne. Un château qui ressemble au petit Trianon, car Louis II voue un culte à Louis XV, à Louis XVI, à Marie-Antoinette. Il commande un buste de la reine de France qu'il salue avec déférence chaque fois qu'il passe devant les jardins. Il se dit même régulièrement que Louis II demande à ses valets de dresser le couvert pour lui-même, mais aussi pour ses prestigieux invités. Marie-Antoinette et Louis XVI, qui ont pourtant, je vous le rappelle, Mathieu, étaient guillotinés 70 ans auparavant.
Mais c'est moi qui vous le rappelle, Stéphane. Il est toujours saint d'esprit, d'après vous, je le rappelle à nos auditeurs.
Il a une passion, vous savez, parce que il s'appelle Ludwig, Louis, et il pense que c'est un hommage au roi de France, évidemment. Il préfère se faire appeler Louis que Ludwig, d'ailleurs. Le roi de Bavière passe de longues soirées à bavarder avec Louis XVI et Marie-Antoinette. Cependant, contrairement aux apparences, il ne perd pas encore la tête puisqu'il admet pourvoir les faire disparaître quand il en a assez de la conversation. Aller. Dans son palais, le roi s'autorise à de nombreuses excentricités. Il fait venir de France un pavillon mauresque en 300 pièces détachées, découvert à l'Exposition universelle de Paris. À l'intérieur, tout n'est que tentures, lampes aux vitraux multicolores, tapis d'Orient. Louis II demande à ses domestiques de revêtir des costumes arabes. Il peut ainsi vaquer à ses occupations comme la lecture, tout en étant propulsé dans un décor féerique, digne des contes des mille et une nuits. Bon, franchement, entre nous, Pierre Loti a pas fait mieux dans sa maison de Rochefort. Hein, enfin, et puis comment pas dresser la liste des folies architecturales du roi de Bavière sans évoquer son ode à Louis XIV, son monarque préféré? En son honneur, il fait bâtir le château de Herrenchiemsee, l'exacte copie de Versailles. Hein. Il dit de ce palais qu'il est construit non pour être habité, mais pour être contemplé. Tout doit être gigantesque. La galerie des glaces est 25 mètres plus longue que celle de Versailles. Ou alors le fastueux lit à baldaquin jamais utilisé, mais dont la tapisserie a nécessité pas moins de 7 années de travail.
Alors, si Louis II de Bavière n'était pas fou, il avait la folie des grandeurs quand même, on peut le dire ça.
Absolument Mathieu, une chose fascine le monarque, c'est le monde des contes et des légendes. Et c'est dans ces grands châteaux sortis tout droit de son imaginaire qui est très vif, oui, que le roi s'évade. Oui. Louis II mène une vie en total décalage. Il ne dispose pas d'une cour. Il se lève à 18h, prend un gargantuesque petit déjeuner et entame sa journée, ou plutôt sa soirée. Les nuits d'hiver, il sort avec son traîneau de style rococo, tout en or et très moderne. Il a fait fixer des lanternes éclairées par l'électricité dont la batterie est camouflée sous le siège. Recouvert de son manteau d'hermine offert par le tsar de Russie, il voyage toute la nuit sur les neiges de Bavière. Fasciné par la royauté française, il a, par exemple, des exigences insolites. Ses valets, habillés en tenue de gala à la mode de Louis XV, ont interdiction de le regarder dans les yeux et doivent s'agenouiller sur son passage. Alors, certes, on le dit homosexuel, mais voyez-vous, il assouvit ses désirs, ses pulsions par procuration. Il fait construire une sorte de cabane où il prend plaisir à contempler de jeunes hommes qui festoient en s'abreuvant d'hydromel. Ces soirées à thème où les garçons se travestissent à la mode grecque, romaine ou germanique se finissent souvent en parties fines, mais le roi, lui, n'est que voyeur. Il les regarde s'ébattre, il ne se mêle pas à leurs ébats. Passionné de théâtre, Louis II commande plus de 450 textes mettant en scène ses personnages historiques préférés. Mais la troupe ne joue pas pour une salle pleine à craquer, non, elle se produit uniquement devant lui. Il exige que les comédiens ne saluent pas à la fin de la représentation et leur demande de quitter la scène sur la pointe des pieds pour ne pas casser le songe dans lequel il se complaît. Et pour prolonger son rêve, le roi invite certains comédiens dans son château de Lindenhof. Il les attend notamment dans la grotte magique de Wagner, assis dans sa barque en forme de coquillage. Il déclame alors leur texte toute la nuit, aurait interdiction de dormir, de manger, de quitter leur costume. Il en veut encore et encore et encore. Ils sont épuisés, mais ils doivent continuer tant que le roi leur demande.
Il n'est toujours pas fou, Stéphane, hein, on est d'accord.
Plus les années passent, plus ses ordres, certes, sont loufoques. Il obligerait, dit-on, un valet à porter un masque, car il le trouve trop laid. Un autre, il lui apposerait un cachet de cire sur le front pour symboliser sa fermeture d'esprit. Ajoutez à cela ses dépenses exorbitantes pour financer ses projets de construction. Pour ses ministres, la coupe est pleine. Surtout pour son oncle, qui a très envie du pouvoir. Enfin, en 1886, 22 années seulement après que Louis II soit monté sur le trône, enfin les ministres parviennent à le destituer en invoquant, évidemment, sa supposée folie. Pour le destituer, ses ministres, et derrière eux, il y a évidemment son cher oncle Louis de Paul, n'avaient qu'un seul moyen, prouver sa folie incurable dans l'année. C'est inscrit dans la constitution bavaroise. Ils ont donc mandaté des psychiatres qui n'ont jamais ausculté ni vu Louis II de Bavière. C'est-à-dire qu'ils ont rendu des rapports simplement sur des rumeurs, sur sa prétendue homosexualité ou sur ses antécédents familiaux. Une de ses tantes était folle. Son jeune frère, Othon, a été interné parce que, bon, c'est vrai que parfois il se prenait pour un chien. Il s'est jeté à genoux d'un archevêque dans une église en hurlant qu'il avait une relation sodomite avec le Christ. Enfin, bon, ça peut arriver dans les familles.
Bien sûr, ça arrive souvent. On connaît tous un cousin comme ça.
Fou, courageux en même temps, original, oui, tout cela à la fois. Louis II de Bavière reste un mystère. Mais comme sa mort, Mathieu. Le roi tout juste destitué est retrouvé avec son psychiatre gisant dans le lac en contrebas du château de Berg, sur le Starnbergsee, où il vient d'être interné. Depuis, plusieurs théories ont été avancées. Suicide, bagarre entre les deux hommes, étranglement. À moins que Louis II n'ait eu simplement qu'une seule volonté, celle de traverser le lac pour rejoindre sa cousine adorée, l'impératrice d'Autriche. Vous savez, la célèbre Elisabeth, Sissi.
Europe 1, historiquement vôtre.